Amis du RH, bonjour. Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le Barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain ? Préparez vos AirPods, c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui, on va vous parler expérience collaborateur. Mais on va arrêter le blabla sur le sujet, on va juste le redéfinir et surtout, on va vous donner de l'actionnable. Et pour ce faire, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Léna Basile. Salut Léna, comment ça va ?
Salut Nicolas, ça va au top, merci.
Bon bah trop cool que tu sois là aujourd'hui avec moi. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter en quelques mots et présenter ton parcours et voir pourquoi tu es la personne adéquate pour parler du sujet. Parce que dans les préparations on a vu et dans nos échanges on l'a vu, t'en as vu pas mal.
Exactement. Effectivement, j'ai pris un petit coup de vieux.
Ça c'est pas vrai. T'as pas pris de coup de vieux, c'est pas vrai. T'en as vu pas mal, ça veut dire que t'as du recul sur l'histoire et t'as du recul sur le sujet, c'est tout.
Exactement. On parle pas de vieux. Non, j'ai un parcours RH. Hein. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en tant que DRH au sein de différentes structures. Donc j'ai travaillé dans le secteur de la banque assurance, dans le transport, l'industrie et de services, les énergies renouvelables. Enfin voilà, très diversifié dans différentes villes aussi, puisque je suis originaire du sud de la France. Donc j'ai bossé à Montpellier, à Paris. Là aujourd'hui, je suis à Lyon. Donc j'ai une vision un petit peu transverse. J'ai aussi été pendant 4 ans DRH de transition. Donc sur la période Covid, donc là plutôt au sein d'ETI et de PME, dans un contexte qu'on connaît tous, hein, un petit peu de tension et de crise. Et puis après quelques belles expériences, j'ai décidé de fonder Meta for Human, donc mon activité. Là, je suis aujourd'hui DRH externalisée et je suis également coach consultante, donc dans différents secteurs d'activité également, puisque j'interviens dans le secteur bancaire, mais aussi dans la production de matériel, dans la chimie, dans l'associatif, dans des PME, ETI. Enfin voilà, du fait de mon expérience diversifiée, j'interviens aussi dans différents secteurs d'activité.
Trop cool. Et j'ai vu aussi que tu avais commencé par de la communication RH.
Oui, tout à fait. J'ai longuement hésité entre la com, le marketing com et puis les RH, puisque j'ai ma première expérience en alternance, j'avais la double compétence. Donc effectivement, ça me poursuit un peu et j'aime ça.
Mais tu étais précurseuse parce que, bon, on va pas dire quand est-ce que tu as... Bah si, tu l'as dit, il y a plus de 15 ans, tu as commencé. Il y a plus de 15 ans, la communication et les RH, c'était quand même un petit peu éloigné. Et tu étais déjà une des premières à te dire, bah tiens, marketing, RH. Et puis finalement, aujourd'hui, les deux sont imbriqués. T'étais à une grande avancée, enfin t'étais une visionnaire sur le sujet.
Exactement.
Donc du coup, je suis super content de t'avoir pour parler de l'XP collaborateur. Pourquoi ? Parce que avec tout ce que t'as vu, que ça soit dans ton passé de DRH, que ça soit dans ton passé de DRH de transition, où forcément le côté collaborateur, la manière dont on s'en occupait était ultra importante, ou aujourd'hui dans ton métier actuel et dans ce que tu proposes à tes clients, t'as vu un panel de situations dans différents secteurs, dans différentes tailles d'entreprise, dans différentes zones géographiques, comme tu l'as dit aussi, qui te permettent d'avoir ce recul justement sur le sujet. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, nous faire une mini redéfinition pour celles et ceux qui sont là, qui auraient vécu sur Mars pendant les 12, 18, 24, 3 dernières années et qui n'auraient jamais entendu parler d'expérience collaborateur, une petite redéfinition. Et pourquoi pour toi aujourd'hui, c'est super important en 2024 ?
Oui, alors moi l'expérience collaborateur, je la lis beaucoup en fait à la promesse employeur. Pour moi, on doit partir de là, c'est-à-dire que la première étape et le socle, c'est de travailler justement la promesse en lien avec les valeurs, en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et de là, en fait, on doit apporter la preuve que la promesse existe, en fait, la concrétiser finalement au niveau de l'expérience collaborateur. Et l'expérience collaborateur vécue, finalement, va créer l'engagement. Donc tout ça est connecté et une fois qu'on a tout ça, on communique et du coup ça nous donne une marque employeur au top.
Trop cool, donc tu commences par le VP.
Exactement.
Hop. Ensuite derrière tu la déploies en mode expérience collaborateur et après forcément c'est en communication, c'est la marque employeur. Alors on sait, on en parle, hein, on dit toujours que l'expérience collaborateur c'est vraiment le sujet de 2024, donc tu l'as dit, ça travaille l'engagement, mais au-delà de ça... Pour toi, pour quelles raisons, en fait, qu'est-ce qui a changé dans toutes ces années que tu as vues, qui fait qu'aujourd'hui, particulièrement, même si c'était toujours important, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui pour toi fait qu'aujourd'hui, particulièrement en 2023, 2024 et dans les années à venir, c'est vraiment un sujet primordial pour les RH?
Pour moi, c'est un sujet primordial parce que, bon, déjà, la société a évolué, les leviers de motivation ont évolué, le rapport aussi au travail et le rapport entre les entreprises et les salariés aussi a fortement évolué. Aujourd'hui, on est dans un contexte, alors on va dire quasi de plein emploi, même si on voit que, voilà, on a des tendances aussi en 2024, peut-être, qui reviennent sur ce qu'on a pu vivre, et encore on ne reviendra jamais, je pense, à ce qu'on a vécu avant le Covid. Mais aujourd'hui on se doit aussi de faire vivre une expérience particulière, personnalisée et unique aux collaborateurs pour créer l'engagement, pour qu'ils se projettent aussi dans l'entreprise et pour que finalement ils apportent et puis ils puissent grandir au sein de l'organisation. Et donc, ça fait partie des enjeux pour moi 2024, parce que les entreprises ont besoin d'attirer, certes, mais aussi de fidéliser et finalement de conserver les talents. Parce qu'on voit bien que ça a un impact sur la performance de l'entreprise, la rentabilité, le fait d'avoir des turnovers élevés, le fait d'avoir des vacances de poste, le fait d'avoir des départs, ou de devoir reformer des personnes. Forcément, ça a un coût aussi pour l'entreprise et c'est une perte de performance. Donc pour moi, c'est un enjeu primordial, et notamment avec tout ce qu'on a pu vivre et les leviers de motivation qui ont vraiment changé. Donc aujourd'hui, on se doit vraiment de faire vivre quelque chose d'immersif et que ce soit transparent et réel, et d'impulser en fait cette relation de confiance entre l'entreprise et le collaborateur.
Qui est hyper importante, parce qu'aujourd'hui ça transmet le sentiment de valorisation, le sentiment de reconnaissance, qui est encore une fois ultra important. Et je te rejoins complètement, hein. C'est-à-dire que c'est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est-à-dire que l'expérience collaborateur, c'est aussi le moyen de montrer à chaque personne qu'elle est unique, mais dans un tout. Et c'est ça qui est aujourd'hui très particulier. C'est, je pense, une des choses qui a changé. Tu me dis si je me trompe, hein. Mais je pense qu'une des choses qui a changé, c'est que avant on raisonnait un petit peu en tant qu'entreprise. L'entreprise était un tout et tout le monde devait se fondre dans ce tout. Aujourd'hui, oui, certes, tout le monde doit se fondre dans l'ADN et la culture d'entreprise, mais avec chacune leur particularité. C'est vraiment le côté diversité. Alors, diversité dans le sens large, hein, pas que diversité ethnique, de genre, parité et compagnie. Enfin, c'est pas ça, c'est vraiment diversité de personnalité, de personnes qui font la force de l'entreprise. Et je pense que ça a changé. Ce paradigme-là, en fait, est vraiment neuf. Et c'est ça qui apporte aussi un plus sur cette nécessité, oui, de travailler l'Expé Collab.
Ce côté d'agilité, le fait d'adapter effectivement à l'individu, mais en même temps qu'il y ait une cohérence collective et une vision aussi commune, hein, parce que voilà, l'idée c'est de pouvoir faire adhérer aussi un projet commun, et c'est la balance entre ces deux éléments. C'est pas évident, nous côté RH, de dire bon, en fait on accompagne de façon individuelle, personnalisée, on a de la flexibilité dans l'organisation, on développe des compétences un peu sur mesure, on propose des parcours de carrière qui sont adapté et un peu atypique, et en même temps à côté on est tous dans le même bateau, on veut avancer vers le même objectif, et comment on fait pour développer l'intelligence collective là-dedans.
Ouais, et donc du coup quand on voit à quel point c'est important de le travailler, parce que tu l'as dit à juste titre, hein, c'est-à-dire que c'est important pour le développement des entreprises, c'est important pour le développement des personnes, le fait de remettre l'humain au centre. J'ai vu que tu avais un de tes titres qui était à un moment donné directrice des richesses humaines. On en parle, bon, richesses, ressources. Ça montre un changement de vision. Après, on est d'accord ou pas avec la sémantique, c'est une autre histoire. Mais du coup, si c'est si important pour tout le monde et si tout le monde devrait le faire, moi, c'est un peu la même question que je me suis posée depuis des années sur la marque employeur. C'est quels sont les freins? Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et ça, je te pose la question, toi qui as vécu plein de situations différentes, pour toi, c'est quoi les freins principaux au fait de ne pas travailler cette expérience collaborateur?
Alors, j'en vois plusieurs. Alors déjà, si je me mets côté entreprise, les freins, pour moi, c'est le manque de temps. Le manque de ressources, en fait, que ce soit humaine, financière, temps. On va dire que pendant des années, on a été plutôt business oriented, hein, on va dire. Et donc, on ne voyait pas forcément l'intérêt de passer du temps, justement, à faire vivre une expérience, à être dans l'accompagnement, etc. L'objectif, c'était le résultat. Et donc, là-dessus, il y a effectivement un accompagnement des organisations sur ces évolutions à apporter. Et puis, il y a la partie agilité. Tout à l'heure, je parlais d'agilité, flexibilité. C'est vrai que plus on a des structures qui sont de taille importante, moi, je l'ai vécu en ayant pu intervenir dans différentes tailles, plus la lourdeur du changement va être forte, en fait. Effectivement, on a ça nous a bousculé, hein, le Covid, etc. On a dû tous collectivement s'adapter, et ce, peu importe finalement la taille de l'entreprise. Donc ça a quand même fait bouger les choses, et de façon positive. Mais il y a ce manque d'agilité, à mon sens, qui peut être complexe à gérer côté entreprise. Et puis, je dirais, si je me mets côté plutôt collaborateur, ce qui peut être un frein aujourd'hui, c'est finalement le manque de confiance et de transparence. On en parlait tout à l'heure. À certains égards, on ne dit pas tout dans l'entreprise, en fait. Et finalement, on se rend compte que les leviers de motivation et d'engagement, ils sont liés aussi à la transparence et à la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres, et dans la stratégie, dans la vision. Et donc ça, c'est un frein fort, à mon sens. Et puis le désalignement finalement entre la promesse et l'expérience vécue, parce que moi je le vois, je l'ai vécu, on a été après Covid, on a été côté RH sur des sujets d'attractivité, parce qu'on s'est retrouvé avec des difficultés à recruter, un turnover offer et puis un plein emploi, on va dire, en développement, et donc on a collectivement travaillé sur l'attractivité, comment on attire finalement les talents, sans forcément retravailler la base, c'est-à-dire l'interne, quelque part, l'expérience réelle vécue. On s'est dit, ça viendra après. Et finalement, il y a eu un désalignement entre la promesse qu'on a faite aux candidats, et quand ils sont entrés dans l'entreprise ou qu'ils ont rejoint les équipes, il y a eu une espèce d'incohérence finalement avec le discours et puis ce qu'ils ont réellement vécu. Donc pour moi, ça, c'est un frein, dans le sens où si on souhaite vraiment faire vivre une expérience collaborateur authentique, il faut qu'il y ait un alignement vraiment entre la promesse, l'expérience et puis la communication qu'on en fait. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour moi.
C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, on voit qu'il y a les freins des entreprises qu'on pouvait imaginer, hein, que tu nous ressors, qui sont les freins classiques, hein, qu'on va sortir pour beaucoup, beaucoup de choses d'ailleurs, ce qui est dommage. C'est tout ce qui est manque de temps et de ressources. Donc ça, c'est le côté, l'entreprise ne met pas ce qu'il faut pour pouvoir bosser sur ces sujets. Pourquoi ? Parce que moi, je reste persuadé du fait que malheureusement, les chefs d'entreprise ne voient pas le côté RH comme une ligne à la fin de leur bilan, enfin, ou plutôt le voient comme ligne à la fin de leur bilan, et donc les évolutions qui sont faites, ils ne les voient pas nécessairement. Donc du coup, ça ne rentre pas, en fait, dans leur ligne, dans leur plan de développement, ce qui est bien dommage. Le côté agilité, qui se comprend tout à fait, parce que les entreprises se disent tout agile, mais il faut réellement l'être pour pouvoir justement travailler cette expérience collaborateur et lui donner du sens. Mais par contre, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu parles du côté, en fait, collab, et du fait qu'il y a cette nécessité d'avoir aussi cette transparence et cette confiance de la part du collaborateur pour pouvoir justement faire ressortir ce qui serait nécessaire de faire évoluer pour l'expérience collaborateur. Mmh. Et ça, c'est vraiment un côté qu'on a tendance aussi potentiellement à oublier, c'est-à-dire de se dire, on va bosser l'XP collab, mais si nos collabs ne sont pas aptes et ne sont pas prêts réellement à la travailler non plus, ben, on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne ressortira pas les bons éléments, et donc du coup, in fine, on ne pourra pas le travailler. Donc c'est assez intéressant, j'avais jamais vraiment pris cet angle d'approche là, et au final il est très très intéressant. Trop cool. Maintenant qu'on a émis les freins, bah, du coup il nous faut des solutions. Donc on sait qu'il y a ces freins là à lever, donc ça, pour le coup, il faut le faire. Peut-être que tu as des idées pour nous pour les lever. Alors je veux bien tes idées pour lever ces freins, et surtout, une fois que toutes les planètes sont alignées, qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place justement cette expérience collaborateur, qu'est-ce qu'on fait pour la mettre en place, et ensuite c'est quoi les étapes qui font qu'on peut la décliner?
Oui, alors je reprends ce terme parce que pour moi, il est fondamental quand on veut créer justement l'engagement et une expérience collaborateur réussie. Le terme de confiance, mais le terme de confiance, il suffit pas de l'écrire sur le site carrière. Il faut le vivre et l'incarner, en fait. Et c'est moins simple. C'est moins simple parce que quand on dit confiance, on dit aussi délégation, on dit aussi finalement montée en compétences, on dit potentiellement risque de départ. Donc voilà, c'est comment est-ce qu'on fait vivre cette notion de confiance dans l'entreprise, et comment est-ce que ça devient réciproque, parce que l'idée, c'est quand même que ce soit réciproque, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc concrètement, pour moi, un des premiers, on va dire une des premières étapes, c'est de structurer une ligne managériale forte. Dans le sens où, certes, il y a la direction générale qui impulse, hein, qui propose des choses et qui a une vision aussi de la stratégie, de ce qu'elle souhaite apporter au collectif et à l'individu. Nous, côté RH, on est un peu là pour mettre de l'huile dans les rouages et puis faire en sorte que ça marche. Mais du coup, notre relais principal, ce sont les managers. Ce sont les managers, donc que ce soit du top management au manager de proximité. Et donc, c'est l'accompagnement vraiment, finalement, de la montée en compétences de la ligne managériale pour qu'elle sache déjà quel est leur rôle, parce que dans toutes les entreprises, les managers ne savent pas vraiment finalement qu'est-ce qu'on attend d'eux finalement, au-delà de gérer une équipe de façon opérationnelle. Donc c'est les former, les accompagner, créer une charte managériale, animer cette communauté, enfin voilà, sur ce volet-là de manager, on va dire, il y a vraiment quelque chose à travailler pour justement créer une expérience collaborateur qui sera démultipliée, on va dire, et au plus proche du terrain. Parce que nous, côté RH, on ne peut pas tout faire. Enfin, on n'est pas des surhumains, ni avec je ne sais combien de bras. Donc, on doit aussi se créer finalement des alliés dans l'entreprise et qui adhèrent finalement à la politique qu'on souhaite impulser et puis leur donner les moyens de pouvoir réaliser ces missions. Donc il y a cette partie-là, la communication transparente, on en parlait, hein, mais ça c'est pour moi un élément fort. Donc c'est comment est-ce que justement on arrive à avoir une communication transparente avec une vision, donner un cap, partager les expériences, avoir une transversalité, une connaissance transverse aussi dans l'entreprise, pour pas qu'il y ait des silos, parce qu'on voit beaucoup de grosses structures où il y a beaucoup de silos, et du coup ça nuit aussi finalement au collectif, à la cohésion et à l'engagement finalement. Et donc en pratico-pratique, moi je dirais qu'il y a des trucs et astuces qui permettent, on va dire, de créer une expérience collaborateur unique, en tout cas valorisée. C'est justement la valorisation des collaborateurs. Comment on reconnaît finalement les collaborateurs, comment on les met en lumière, comment on les valorise dans l'entreprise, donc avec tout un tas d'actions très concrètes, hein. Ça peut être, on peut parler de la cooptation, on peut parler de développer de la participation à des projets transverses, on peut parler de la mise en lumière par des vidéos collaborateurs, enfin voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire. C'est aussi donner la parole finalement aux collaborateurs. Donner la parole et là on fait vraiment preuve de confiance, parce que quand on laisse finalement la parole aux collaborateurs et de porter les couleurs de l'entreprise à l'externe ou même à l'interne d'ailleurs, ça demande quand même un cap à passer, justement, sans être dans on a tel ou tel message à passer, il faut le dire comme ça. Ben non, il faut que ce soit authentique, incarné et que ce soit réel. Donc là, c'est un point, et notamment sur les communautés d'ambassadeurs ou alors auprès des écoles, sur les forums, enfin voilà, de se faire accompagner, que les collaborateurs soient vraiment relais finalement de l'expérience vécue. Et puis, bien évidemment, pour moi, il y a la partie, on leur apporte finalement une perspective d'évolution. On les fait grandir, on leur permet de développer des compétences, quelquefois même en dehors de leur métier, en fait, hein, de leur cœur de métier. On parle beaucoup de soft skills aujourd'hui. On est dans des environnements où tout va très vite, où on a besoin de s'adapter. On parlait d'agilité. Comment on sait aujourd'hui, la plupart des entreprises ne savent pas quel métier ils vont avoir dans 10 ans. Donc du coup, on a aussi cette partie soft skills qui est de plus en plus prégnante dans les entreprises à développer. Donc c'est quelque part leur permettre de développer collectivement cette partie compétences transverses pour enrichir le collectif et l'entreprise, mais au niveau de l'individu. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Je pense que le retour aussi au collaboratif et au collectif est un sujet qui est pas simple, parce que dans un environnement où on a beaucoup de télétravail, de flex-office, du mal à rassembler finalement au même endroit, au même moment, toutes les équipes, ça a fait un sens. Mais on a de plus en plus aujourd'hui d'outils qui nous permettent justement, que ce soit des outils digitaux ou même des méthodes, hein, du co-développement, des groupes de parole, enfin tout un tas de sujets qui permet justement de développer tout ça. Et donc tout ça, en fait, le fait de dire on se projette ensemble, on grandit ensemble et on recrée voilà, une dynamique collective.
Au final, ça va pleinement en phase et en parallèle du travail de la GE2P, en fait, l'expérience collaborateur.
Ah, tout à fait. Pour moi, c'est totalement lié et ça fait sens aussi avec tout ce qu'on a pu voir comme évolution. Alors, certes, on peut avoir les tendances sociétales vont un peu plus vite que, on va dire, tout ce qui est légal et juridique, hein, quelque part. Mais on est dans ces tendances-là. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir accompagner le potentiel et le développement de l'individu au bénéfice d'une expérience collective, en fait.
C'est exactement comme ça que j'imagine et que j'espère l'avenir en tous les cas et que je vois les entreprises avec lesquelles on travaille qui fonctionnent et qui fonctionnent de cette manière-là, fonctionnent bien et se développent bien parce que bien évidemment, c'est ce que tu as dit, il y a un engagement particulier, mais encore faut-il justement mettre en place ce que tu nous as expliqué et ce qui est très très cool parce que ça va pouvoir donner des idées aux gens qui nous écoutent, c'est-à-dire respecter les étapes de base, la structuration, la communication transparente pour pouvoir ensuite après apporter au collaborateur ce qu'il souhaite, c'est-à-dire le valoriser, lui donner la parole plus ou moins, de manière plus ou moins importante, là, c'est ce que tu as dit, parce que le collaboratif est pas... Alors, il y a deux aspects dans ce que j'entends dans le côté de donner la parole au collab, hein. Il y a l'aspect employé advocacy dont tu parlais, qui est primordial, mais par contre il faut faire très attention, et c'est très bien que tu l'aies rappelé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire très attention à ne pas limiter et censurer cette parole, c'est-à-dire que si on laisse la parole, on doit laisser la parole, mais surtout la parole aussi sur le côté collaboratif dont tu parlais, et on voit qu'il y a de plus en plus de boîtes qui fonctionnent sur cet aspect-là, c'est-à-dire la co-construction, le co-développement, même d'un point de vue RH, c'est-à-dire le fait de créer des entretiens avec justement des managers, avec des collaborateurs, vraiment le côté donner la parole à ses collaborateurs de toutes les manières, ça c'est hyper intéressant, et comme tu dis, les perspectives d'évolution qui vont complètement dans le sens du SWP et de la GE2P. Donc c'est très cool. Tu nous as vraiment restructuré le truc de manière straight to the point. J'adore. Donc c'était très très bien. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça a changé les entreprises dans lesquelles tu as bossé pour celles qui ont mis cette expérience collaborateur en place, pour vraiment celles qui ont fait cet effort. Je pense à condition qu'ils soient réel, qui vienne vraiment d'une volonté profonde de l'entreprise et pas simplement, comme tu le disais, pour pouvoir faire du bullshit et faire du jeter des paillettes. Est-ce que ça a vraiment changé les choses? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça a fait, ce que ça a amené?
Pour moi, ça. Alors, c'est vrai que c'est difficile de dire ça a changé le avant-après parce que vu qu'on a eu quand même des énormes changements, on va dire économiques, sociaux, enfin tout ce qu'on a pu vivre au niveau de depuis le Covid et puis toutes les crises qui se sont succédées, l'emploi, etc. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, pour se différencier en tout cas et pouvoir se projeter et avoir une visibilité pérenne de l'entreprise et de l'organisation. Je suis persuadée et convaincue que si on ne travaille pas ce point-là, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que on est quand même dans un contexte de façon positive pour les candidats et les salariés de plein emploi, entre guillemets, en tout cas où ils ont la possibilité de trouver une expérience qui leur convient. Donc c'est aussi aux entreprises de s'adapter finalement à ces changements, ce qui n'est pas forcément tout le temps évident, mais qui est nécessaire. Parce que c'est pas qu'une question de temporalité, enfin c'est pas. Je pense que c'est pas uniquement maintenant, ça va perdurer. Voilà, on a changé la façon de travailler, on a changé les motivations pour venir au travail. Et du coup, c'est certain que si l'entreprise ne remet pas au cœur de son organisation l'humain, qui est quand même la matière première pour moi vraiment de l'entreprise, et on s'en est tous et toutes rendu compte lors du Covid. Et pour ça, ça a été quand même pour moi hyper positif, parce que, et d'ailleurs, même dans nos métiers RH, ça a remis justement aussi au centre du village notre utilité dans l'entreprise. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Et même si effectivement, on se projette un peu plus loin, tout le monde parle de l'IA, de la digitalisation, tous ces sujets-là, ça ne remplacera pas l'humain, ça ne remplacera pas les vraies personnes qui travaillent et qui apportent de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et aujourd'hui, on est quand même, à mon sens, obligé, dans le sens, je mets des guillemets, obligé en tout cas si on veut performer en tant qu'entreprise, notre investissement premier doit être sur l'humain. parce que c'est lui qui va nous rapporter de la performance en fait.
On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On est obligé de s'arrêter là sur cette phrase et sur cette déclinaison qui est réellement tout ce que je pense et tout ce que j'espère en fait pour l'avenir. T'as entièrement raison. Ce qui est assez dingue quand même dans ce que tu dis, c'est que il nous a fallu une super crise pour s'en rendre compte, alors que pourtant c'est la base de la base. L'humain fait avancer la société dans sa grandeur, enfin dans sa totalité, et donc les sociétés au quotidien, c'est vraiment l'humain qui fait avancer les choses. C'est dommage qu'il ait fallu une crise pour ça, mais comme tu dis, s'il y a un truc positif à ressortir, c'est celui-ci. Et je trouve ça très bien comme conclusion, le fait qu'en gros, cet XP collaborateur nous montre, et ce pourquoi on en parle aujourd'hui, ça nous montre que c'est une réelle tendance de fond du fait de rejouer sur ces sujets-là et de remettre l'humain au centre et de le reconsidérer comme la vraie valeur de l'entreprise, celle qui va réussir à développer l'entreprise. Un co-développement, en fait, du côté business et du côté humain. Trop cool. Merci beaucoup, Léna. C'était
Merci
super sympa de t'avoir aujourd'hui. Ça a été très actionnable, encore une fois. Très direct et très, très précis. Donc, merci beaucoup pour cet échange qui était vraiment très cool. J'espère que ça t'a plu.
C'était top, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir.
Bon,
très
bah écoute, ça sera à refaire. Je mettrai toutes tes coordonnées, le lien de ta boîte et ton lien LinkedIn en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.